On reste en famille, en perspective du sujet, Henri Appia et le fils de Georges Appia, en vue de l'orateur. L'orateur Louis Appia est l'arrière-petit-fils d'Henri Appia, c'est juste. Et on passe la parole à Louis Appia, et afin que nous le l'ayons avec notre grand Louis Appia, c'est Louis Appia III.
Voilà.
C'est Louis Appia 18 ou 19, hein, si on le fait pas au respect.
Ça suffit.
Ça suffit.
Si on remet, si vous voulez bien, le programme, ça me permettra de pouvoir m'installer pour l'instant. Et de constater que lorsqu'on avait défini ce programme, on m'avait demandé, donc il y a pas mal de temps, de donner un titre, n'est-ce pas, à ce programme. Et vous le voyez, j'avais dit que c'était le fils aîné qui était trop tôt parti, en fait. Parce que dans mon inconscient familial, alors qu'effectivement c'est mon arrière-grand-père, Henri Appia, c'était le fils d'eux. Donc être le fils d'eux, et notamment, on vient de le voir, le fils de Georges, ça ne doit pas être facile tout de même à vivre, le fils du buisson ardent. Et je crois que, tout comme moi, qui n'est pas de doctorat ni de professorat, passe après tous ces orateurs émérites, n'est-ce pas, eh bien, Henri Appia souffre peut-être de l'ombre que lui ont fait son oncle, Louis Appia, ou Georges Appia, mais en aucun cas au niveau de son engagement et de la personnalité propre qu'il est. Le seul problème qu'il a finalement, c'est qu'il est mort très jeune. Donc, j'avais repris une citation de Jean Sayens qui disait que être un chaînon, même oublié, même anonyme, dans la chaîne que forment à travers les siècles ceux qui refusent de désespérer, ceux qui croient envers et contre tout que la vie a un sens, c'est le seul destin que l'on doit envier. Et donc je suis parti de là pour me dire, tiens, finalement, que c'est peut-être pas du tout un fils de simplement trop tôt parti, mais en se posant la question, est-ce que Henri Appia est un chaînon oublié? Alors, vous pouvez bien sûr deviner que ma réponse, c'est non. Il n'est pas simplement un chaînon, n'est-ce pas? Alors, nous sommes allés, Olivier en a parlé, à la tour, nous avons gardé les archives familiales de la table vaudoise, et malheureusement, pour Henri, il n'y a presque rien, n'est-ce pas? Donc, c'est parti, sur ce type d'objet, je regarde, je cherche. On trouve bien sûr le dictionnaire historique de la Suisse. Bon, on trouve tout de même une matière qui existe, puisqu'il il bénéficie d'une biographie à son nom, qui est publiée 4 ans après sa mort. Mais je suis, moi, toujours un petit peu embêté, parce que cette biographie est principalement un curriculum vitae bien épais, et que la vie familiale, l'homme, et il le confesse d'ailleurs dedans, il ne le révèle pas. Il y a très peu de choses finalement sur l'homme. On peut, autre axe de réflexion, se poser la question pour Henri Appia si l'on peut faire la dichotomie entre l'homme et son engagement pastoral, son ministère. Alors, si je lis maintenant, et je commence par ce que je viens de dire, je réserve quand même une petite surprise ou deux, qui est Henri Appia? Donc avec humilité, j'espère vous donner simplement envie d'en savoir plus et donc de poursuivre potentiellement avec moi les recherches, avec une absence totale de modestie en revanche, je suis très fier d'être son arrière-petit-fils, même si je ne suis pas pour grand-chose en fait. Et ne serait-ce que parce qu'on peut considérer que si on a une biographie à son nom qui sort 4 ans après son décès, c'est qu'on n'est pas seulement un fils d'eux, n'est-ce pas? Alors, le dictionnaire historique de la Suisse, pour commencer, nous dit qu'il est né le 15 septembre 1861 à Palerme et qu'il est mort le 28 juin 1901 à Genève. Il y a un point d'interrogation à côté. Donc, l'auteur de ces lignes dans le dictionnaire historique de la Suisse savait qu'il y avait un doute sur le sujet. Et ça a bien sûr son importance, puisqu'il n'est pas mort du tout à Genève, il est mort à la Tour, à Torre Pellice, dans la maison de ses parents, les Hérald Blanc, que nous avons visités avec certains membres de la société Louis Alphen. Continuons avec le dictionnaire historique de la Suisse. Protestant de Genève et la Coudre, donc aujourd'hui Neuchâtel. Si vous regardez mon passeport, notre lieu d'origine de ma branche est effectivement de Neuchâtel. Si vous regardez mon passeport, vous verrez également que je ne pouvais échapper finalement à cette présentation après ces orateurs émérites, puisque ma malédiction à moi, c'est de m'appeler Louis Georges Henri Rapia. Donc, oui, c'est lourd quelquefois à porter, n'est-ce pas ? Et donc, il est protestant à la Coudre, à Genève et à la Coudre. Il est le fils de, le neveu de, le fils donc de George et de Helen Sturge. Et puis, il épouse en 1886 Thérèse. Il fit ses études de théologie à Berlin, Neuchâtel et à Röntgen. Entre 1880 et 1885, il est bachelier de théologie à Paris en 1886 et il est consacré la même année, nous allons y revenir. Il exerce alors un ministère pastoral à Nesovo en Belgique, contre toute attente. Donc de 1885 à 1890, donc pendant 5 ans, avant de rejoindre Codognan dans le département du Gard en 1800, donc 90, et Turin en 1891. Et enfin, appelé à Genève, il devient pasteur de l'Union nationale évangélique à Genève, et en 1897, il est nommé professeur de théologie pratique à l'école de théologie de l'Église libre de Genève, donc à l'oratoire, en 1898. Alors, on apprend dans ce dictionnaire historique une publication en 1900 reprend trois conférences qu'il a effectuées sur le christianisme social. Et donc, c'est un thème qui va revenir de manière extrêmement régulière chez Henri, notamment et certainement par son premier ministère à Nesovo. On y reviendra également. Donc, cette biographie, comme je vous le disais, pour moi est malheureusement principalement un curriculum vitae. Tout à l'heure, Reiner faisait part effectivement du fait que sa jeunesse, il est en formation, il vit en Allemagne, et que précédé par la notoriété de son oncle, il est invité à pas mal d'endroits. Il a une vie qu'on ne peut pas décrire comme mondaine, mais il est reçu par des sommités dans cette vie en Allemagne. Mais pour moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette biographie surtout, c'est la construction de sa personnalité. Encore une fois, je vous rappelle qu'il est le fils du Buisson Arbre. Et donc on découvre une correspondance extrêmement fournie avec son père dans cette biographie et qui va dessiner sa personnalité. Parce que si les premières lettres témoignent d'une ascendance que je pourrais décrire comme légitime du père sur le fils, l'évolution de cette correspondance témoigne d'une personnalité qui n'est absolument pas écrasée par la figure paternelle, mais elle s'enchaîne vers des échanges qui deviennent des échanges entre égaux, même s'il y aura toujours dans les lettres de Henri à son père une reconnaissance pour ce que lui ont apporté ses parents. Alors, dans cette biographie, la vie familiale est malheureusement inexistante, ou presque, et pourtant, on y apprend tout de même qu'il épouse Thérèse Rey. Thérèse Rey est donc la sœur de son meilleur ami, Jean Rey, qui est... ils sont à Paris, c'est une famille qui est entre Genève et Paris. puisque c'est Thérèse Rey et la fille d'une Bouvier, n'est-ce pas, de Genève. Et puis, elle est élève de Rodin. La mythologie familiale veut d'ailleurs que Rodin lui-même se soit mis à genoux pour supplier Thérèse de ne pas se marier avec ce sinistre pasteur, n'est-ce pas, et qu'elle puisse poursuivre son art, où visiblement elle était relativement douée. Donc dans la famille, on n'en sait pas beaucoup. Hein. C'est 6 enfants. Il y avait une photo que tout à l'heure Olivier a montrée, où on en voit quelques-uns. Donc 6 enfants, dont donc, mon grand-père, Georges, ou la grand-mère de mes cousins, Pictet, Olivier et Bertrand, qui s'appelait Clotilde, étaient donc nés de cette union. Mon grand-père ne me parlait pas. Mon grand-père, je n'ai eu aucune relation avec, donc pas d'échange sur son propre père, qu'il avait finalement relativement peu connu. La seule image finalement qui m'était restée de Henri Appiah venait de ma grande-tante, Béatrice, dite tante Biche, qui lui en voulait énormément d'être mort quand elle avait 2 ans. Donc il y avait cette forme de distillation d'une détestation pour la figure paternelle inexistante de la part de Biche, si bien que j'avais, encore une fois, envie de dire, un fils aîné qui était disparu trop tôt, n'est-ce pas? Donc oui, il est mort jeune, puisqu'il avait peut-être hérité de la santé fragile de son grand-père, Paul, mais là également, difficile de savoir de quoi il est mort. Il est probablement mort de surmenage, mais encore une fois, ce ne sont que des supputations. On reprend le CV. Donc, quand il a fini ses études de théologie, donc là j'ai vraiment balayé, c'est une énorme partie de la biographie, hein, les études proprement dites et les échanges sur les études, mais j'ai balayé cela, parce que j'aimerais bien arriver à quelque chose, vous le verrez. Les études de théologie achevées, à Nesson, il choisit Nesovo en Belgique à l'été 1885. Le choix est en soi surprenant et intéressant, puisqu'au même moment, il lui est proposé un poste à l'église luthérienne de Paris. Paris, qui signifie pour lui de se rapprocher de sa famille, de se rapprocher de sa future compagne, dont il sait que ça sera sa compagne depuis quasiment son adolescence, et il se rapprochait pour l'exercice de son ministère prochain, des conseils paternels qui ne vont pas manquer d'être super intéressants pour débuter sa carrière de pasteur. Et pourtant, et puis en plus, si je rajoute pardon, encore une chose, les appels de son père qui lui dit « Mais oui, bah, forcément, viens à Paris. » Il choisit la Belgique. Il choisit un bassin houillé Charleroi, puisqu'il va choisir l'appel de l'église missionnaire belge, donc tout près de Liège, dans un bassin ouvrier complètement. Et j'aime assez reprendre ce qu'il écrit plus tard à sa femme, à sa femme, je crois qu'il écrit ça. Il aime à dire, j'aurais dû mettre mes lunettes, mais je serais incapable de refaire un focus après là-dessus. Je répète souvent à ma femme qu'il nous sied d'être modestes et de ne pas nous figurer que l'on nous désire et qu'il suffirait de nous présenter pour être reçus à bras ouverts. Les solliciteurs ne manquent pas. On cherche trop souvent les premières places dans le ministère comme ailleurs. Il en est peu qui se rendent dans un endroit parce qu'il est obscur, déshérité, délaissé, et qu'il y aurait beaucoup de bien à y faire. Et là, on voit déjà quelque chose qui est propre à Henri Appiah. Il va s'intéresser à cet endroit parce que c'est un endroit qui est très difficile. C'est un ministère qui va durer 5 ans. C'est un choc et c'est ce qui va forger sa pensée. La première année est chargé puisqu'il exerce déjà en partie et il rédige sa thèse. Ensuite, en novembre 1886, enfin, il épouse mademoiselle Thérèse Rey, lors d'une semaine extrêmement chargée, puisque le 20 novembre, il soutient sa thèse devant la faculté de Paris. Le 21, il est consacré dans une cérémonie visiblement assez importante pour lui, forcément, mais même dans le sens qu'il lui donne, puisqu'il est consacré à l'Église de la Rédemption, par son père, mais avec d'autres pasteurs en participation active, comme Théodore Monod, qui est pasteur réformé, M. Lodz, qui est pasteur luthérien, et M. Annette, qui est pasteur de l'Église libre venue spécialement de Belgique. Et on voit ici se dessiner une expression, et Valérie en a parlé tout à l'heure, qui est très importante pour sa conception ecclésiastique, l'alliance évangélique. Et ça, c'est quelque chose qui va perdurer sur toute sa carrière. Donc, il est de retour ensuite avec sa femme à Nessonvaux, en décembre 1886. Et là, il prend le plein exercice de son ministère, comme l'a dit tout à l'heure Valérie, totalement secondé par son épouse, qui visite avec lui les plus démunis, fait des groupes de jeunes filles pour leur apprendre à coudre ou à tricoter, organise des écoles qui pourraient s'apparenter à des écoles du dimanche. Et quand je dis que c'est un choc, bien sûr, c'est donc, je reprends, un bassin houillé, il y a la pauvreté, il y a l'exploitation des durées de travail qui sont extrêmement longues, de 6 jours sur 7, avec des hommes, des femmes, des enfants qui travaillent, et puis qui, c'est déjà des moments assez troubles, puisqu'il y a des manifestations, des heurts, des coups de fusil qui sont tirés à différents endroits, mais qui vont forger finalement sa conception du christianisme et donc à le conduire plus tard à embrasser le christianisme social. Alors, quelles traces laissa-t-il là-bas ? J'aime à lire une de ses paroissiennes qui lui écrit, où est-ce que je suis là ? Si vous connaissez un bon relieur, ça m'intéresse, hein, parce que il est à mon livre. Et...
Tu l'as bien lu, en tout cas.
Là, je crois que je suis obligé de mettre mes lunettes. Bien. Quand notre nouveau pasteur arriva, nous étions très anxieux de savoir comment il travaillerait parmi nous. Après peu de temps, nous pûmes constater que, malgré sa jeunesse, il était un vrai disciple de Jésus-Christ. Avec quel sérieux s'efforçait-il d'amener les pécheurs au Sauveur, suivait les égarés, retournait toujours à nouveau les chercher dans leur demeure jusqu'à leur atelier et ne se donnait pas de repos qu'il ne les eût conduits à la maison de Dieu. Avec quelle fidélité il visitait les malades, surtout. Aucune heure n'était trop matinale ou trop tardive pour lui. Peu de temps après son arrivée, notre paroisse commença à s'éveiller à une vie nouvelle. L'église, où l'on voyait jusque-là tant de places vides, se remplissait de plus en plus. Chacun voulait entendre sa prédication puissante et pénétrante. Je puis bien dire que chacun rentrait chez soi fortifié, car ses paroles, sorties du cœur, trouvaient à leur tour le chemin des cœurs. Le dimanche, il s'apercevait tout de suite quand tel ou tel avait manqué le culte. Il n'était pas tranquille qu'il n'eût su la raison. S'il apprenait que ce fut pour cause de maladie, il partait parfois immédiatement après le service pour visiter le paroissien absent. Ses allocutions aux enterrements étaient frappantes aussi, et on eut plus d'une fois remué des catholiques présents à ces occasions. Il exprimait souvent sa tristesse de ne pas amener à l'Évangile plus de catholiques. Mais nous avons toujours eu l'impression que la brièveté de son séjour au milieu de nous en fut seule cause. Combien de fois ne l'avons-nous pas vu dans ses courses ou même à la station, donc la station de train, au moment de se mettre en voyage, s'approcher des gens étrangers et leur offrir un traité. Il faisait à tous l'impression d'un bon berger, un vrai pasteur d'âme. Que de belles heures n'avons-nous pas passées avec lui ? En présence, on se sentait dans une atmosphère élevée et ses conversations étaient toujours instructives et bienfaisantes. Lorsqu'il venait prendre part à nos soirées familières entre amis, il tirait de sa poche une feuille ou une brochure pour nous faire quelques belles toniques lectures, car il avait en vue le vrai bien de chacun des membres de son troupeau. Quelle tristesse le saisissaient à la vue de leurs manquements, combien étaient-ils toujours prêts à aider chacun à rentrer dans une bonne voie. Son travail parmi nous a été abondamment béni et son départ déploré par tous. Automne 1889. On dit dans la biographie, pour des raisons de famille, qu'il est obligé de donner sa démission de cette paroisse. Et donc, le 16 février 1890, il quitte définitivement la Belgique. Il arrive à Codognan, dans le Gard, donc non loin de Nîmes, où le réveil, d'après ce qu'il écrira lui-même, avait laissé des traces bénies. Alors, il y a des choses amusantes, puisqu'il voit que la ferveur est là, grâce à ces traces du réveil, mais principalement chez les femmes, parce que le dimanche, souvent, les courses de taureaux font qu'il a une concurrence et que les hommes préfèrent aller aux courses de taureaux que de venir au culte. Malheureusement, ce n'est pas une année où on peut se réjouir, je plaisante sur ce sujet, mais parce qu'il est terrassé par la maladie, avec son frère Louis, quasiment simultanément, puisqu'ils sont atteints de typhoïde. Et il le dira, il voit la mort. C'est une période très sombre que ce passage dans le Midi. Et quand enfin il sort de cette maladie mortelle et qu'il reprend ses activités, il se rend compte, puisqu'il est en pleine campagne, n'est-ce pas, il doit bouger, il doit marcher, il doit rencontrer beaucoup de monde, que sa santé ne le permet pas. Et c'est là où il quitte Codognan avec sa famille, puisqu'il a obtenu une place à Turin, où il va rester entre 1891 et 1897 au poste de second pasteur de l'église de Turin. Enfin, je reviendrai sur l'église de Turin après. En 1896, il reçoit un appel de l'Union nationale évangélique de Genève et il décide d'y aller, alors que ce n'est pas la première fois. Avant, il voulait continuer à exercer dans différents endroits. Là, il va rejoindre Genève en avril 1897. Donc, beaucoup de choses ont été dites précédemment, bien sûr. On perçoit nettement l'un des traits fondamentaux du tempérament intellectuel d'Henri Gapia, savoir cette large ouverture d'esprit, cette noble et infatigable ardeur d'investigation, de curiosité désintéressée qui l'entraînait sans cesse à explorer des champs nouveaux, non pas en dilettante, mais en ouvrier, en apôtre. Heureux le pasteur qui éprouve cette impulsion intérieure irrésistible, instinct pareil à celui de l'abeille qui visite fleur après fleur pour en extraire les matériaux de son miel. Je passe quelques lignes. Mais hélas, le ministère tel qu'il le concevait, ouvert à tous les souffles du dehors, incliné vers toutes les tâches rédemptrices, recèle un autre péril, celui du surmenage intellectuel et physique. Or, devant cet ennemi-là, Henri Gapia, trop confiant, resta désarmé. Au lieu de se tenir sur ses gardes, il se prêta, il se donna, il se livra. Il allait au-devant du travail avec un sourire, mais sous ce labeur aimé se cachait un tourbillon perfide qui l'emporta. C'est sa vie à Genève, n'est-ce pas? On pourrait... Alors, ce que j'essaye de montrer, c'est que avec Henri, quasiment chaque partie de sa vie pourrait donner lieu à une conférence d'une après-midi complète. Donc à chaque fois qu'on ouvre une ficelle, ne serait-ce que sa présence à Genève, d'un intérêt et d'une richesse absolument extraordinaire. Mais bon, je passe ça relativement rapidement, puisqu'on se retrouve en 1901, et que le 31 mars, il monte en chaire encore, mais il est pris d'étourdissement. Le médecin lui prescrit immédiatement un repos, et c'est là où il y a un départ de Genève, du jour au lendemain, un voyage qui l'emmène, de manière assez surprenante, dans le Midi de la France, quelques jours en Suisse, quelques semaines dans le Midi de la France, et une arrivée à Torre Pellice, où il s'éteint le 28 juin donc 1901, avec cette phrase d'après, encore une fois, la mythologie familiale, où il aurait dit Jésus vient. Mais ce qui est intéressant, enfin, encore une fois, frustrant pour moi, c'est que je n'ai aucune idée de qui était réellement à son chevet. Il est dans la maison familiale, mais je ne sais pas si sa femme, ne serait-ce qu'elle, est avec lui à ce moment-là, si ses enfants sont avec lui. Enfin, lors des obsèques, ses amis et auditeurs de l'Union nationale évangélique se sont réunis dans la salle de la réformation, tant l'affluence est importante, au moment où il y a une cérémonie à Torre Pellice. L'Union nationale évangélique s'était fait représenter à Torre Pellice par le pasteur Théodore Naville, et comme je le disais tout à l'heure à André, les étudiants de la faculté de l'oratoire par un certain André Durand. Mais j'aimerais maintenant, si vous le permettez, lui donner la parole, n'est-ce pas ? Donc, la seule chose que nous avons réussi à trouver à Torre Pellice, c'est un prêche de... je ne vais quand même pas monter en chair lui faire cette affaire. Mais... le mécréant que je suis ne doit pas... Quoique, ça serait de la gueule quand même. La dette du travail, par Henri Appia, donc, et qu'il prêche à Turin. Vous vous rappelez, Turin. Quand il est à Turin, il est dans la ville de Turin. Qui sont les ouailles avec lesquelles il interagit à Turin? Ce sont principalement des bourgeois, des gens relativement riches, relativement aisés. Et il fait ce prêche là-bas, donc le dimanche 3 décembre 1893. C'est un prêche dans lequel il commence en disant qu'il a lu un livre intéressant sur lequel un auteur à Paris parle de la mendicité, qui est une vraie plaie à Paris, et que pour aller solutionner ce problème, il suggère de l'interdire tout simplement, et au contraire, de la remplacer par la mise en pratique de l'assistance par le travail. Alors, Henri dit que ça paraît très bien, c'est un axe qui est assez intéressant, n'est-ce pas, et qu'on pourrait méditer sur le sujet, mais bien sûr, il dit tout de suite, attention, il ne faut pas qu'on y trouve là d'excellentes excuses pour serrer les cordons de la bourse quand quelqu'un vient nous voir. Mais il dit également que... il ne peut pas réprimer son indignation quand on voit quelqu'un faire de la mendicité un métier. Il est indigne de vivre, dit-il, dans la paresse et le vice en exploitant la charité publique alors que des ouvriers et des ouvrières honnêtes se tuent de travail sans parvenir toujours à suffire aux besoins de leur famille. Puis il pose la question quand même en disant « Mais que dites-vous d'un type qui est extrêmement riche qui possède des hectares de terrain, un domaine immense, qui emploie des centaines d'ouvriers, qui l'occupent, mais dont il ne s'occupe pas, puisqu'il a un contremaître pour les occuper, qui n'a aucune idée de qui sont ces hommes qui travaillent pour lui. Il n'a aucune idée de comment ils vivent, il ne sait pas rien de leur existence. Lui, simplement, il est... j'aime assez les phrases qu'il utilise, il se traite bien, il se pavane au corso, dans un bel équipage, il est magnifiquement paré tous les jours, sa maison est le rendez-vous de tous les conforts et de toutes les élégances, etc. etc. Et donc, il se pose la question en disant, mais alors, tout le monde veut le voir, tout le monde a envie d'être avec lui, mais on peut se poser donc la question derrière, cette réalité à Rome, puisque ça se passe dans la campagne romaine, elle doit nous dire qu'il ne faut pas s'étonner si un sourd mécontentement, et là il fait référence à ce qui se passe en Sicile à ce moment-là, les fasci dei lavoratori qui préparent en Sicile des petites révoltes et qui se deviennent un peu violentes. Et on peut ne pas s'étonner si les théories communistes et anarchistes gagnent du terrain parmi ceux qui souffrent, et si la religion considérée en haut comme une bonne gardienne du capital et une utile auxiliaire du gouvernement commence à être répudiée en bas comme une hypocrisie et un instrument d'oppression.
Waouh.
Il dit ça en chair, hein. Il dit ça en chair à Turin. Cependant, dit-il, cette religion chrétienne, qui souvent est aussi peu connue et aussi mal représentée par ceux qui la soutiennent que par ceux qui l'attaquent, contient les principes les plus féconds pour transformer la vie individuelle et la vie sociale. La Bible, ce livre vieux de tant de siècles, contient des maximes qui ont aujourd'hui encore la plus grande actualité. Je pense qu'aujourd'hui encore, ça a la plus grande actualité. Mais bref. Et de citer, bien sûr, ce dont il veut parler. Si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas non plus manger. Il dit ça à Turin. En d'autres termes, personne ne peut réclamer le droit à l'existence sans accepter en même temps le devoir de travailler. Ce sont deux faces d'une même pièce. Alors, il faut faire attention, en ayant dit une chose pareille, qu'on ne doit pas nous en faire, si nous sommes riches, une arme contre le pauvre qui implore notre pitié, et on ne doit pas, si on est pauvre, en faire une arme d'envie, de désir contre le riche qui possède des avantages dont nous nous sommes privés. Mais on doit, dans l'esprit de l'enfant de Dieu, qui cherche à mieux connaître la volonté de son Père céleste, afin de la mieux accomplir. Alors il parle du droit à l'existence. Qu'est-ce que c'est que le droit à l'existence? Et comment on existe finalement? On mange. Et je trouve assez intéressant cette idée que, tout à l'heure, donc grâce à Valérie, nous avions là-bas des madeleines avec des formes assez intéressantes. Et en fait, je vous dois vous l'avouer, j'en ai mangé deux. N'est-ce pas? Et quelque part, en ayant mangé deux, c'est ce que vient m'expliquer mon arrière-grand-père, je vous en ai privé. N'est-ce pas? Et donc, j'ai finalement commencé à établir une dette envers vous. Puisque j'ai... Si je continue là-dessus, on peut, parce que lui donne des exemples dedans, mais on peut refaire le cheminement de la madeleine avant qu'elle soit posée sur cette assiette-là. D'où elle vient, cette madeleine? Qui l'a faite? Mais avant, qui a fait la farine pour faire la madeleine? Qui a pondu les œufs ou est allé chercher les œufs pour faire ces madeleines ici? Et donc, il établit tout un processus pour dire qu'en bout de course, finalement, si vous établissez, ne serait-ce, lui, il donne d'autres exemples, mais le voyage de cette madeleine, vous allez vous rendre compte que... j'en ai retrouvé la phrase qu'il utilise. Je n'arrive pas à la retrouver. Donc, si vous faites ce calcul, enfin, cette recherche, vous vous rendrez compte que, avant d'arriver dans mon gosier à moi, il y a eu énormément de personnes qui ont contribué à ces madeleines. Et donc, quelque part, moi, en mangeant deux, je vous le rappelle, eh bien, j'ai contracté une dette envers la société, y compris... le moulin qui a moulu la farine, y compris la poule qui a pondu l'œuf, qui a permis de faire les deux madeleines que j'ai mangées goulûment. Cette dette, la payez-vous? Est-ce que je la paye? Pouvez-vous dire avec la noble fierté d'un saint Paul écrivant aux Thessaloniciens, je n'ai mangé gratuitement le pain de personne? Moi là, j'en ai mangé deux, donc je ne peux pas vous le dire. Hein, donc, je vous entends déjà me répondre, mais je n'ai pas de dette. Je paye régulièrement mes fournisseurs. Tous ceux qui ont travaillé directement pour moi ont eu leur argent. Nous sommes donc quittes. Et peut-être même me ferez-vous observer que le seul fait de votre consommation, donc j'ai bien fait d'en manger deux, a rendu des services à la société et que plus vous dépensez, plus vous donnez de travail à d'autres et plus aussi vous faites vivre des gens. Il y a une part de vérité que je suis tout à fait, c'est lui qui parle, hein, disposé à reconnaître. Mais, lui dit, en fait, Saint Paul, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Après Jésus-Christ, après le divin législateur du Sinaï lui-même, c'est que l'argent ne suffit pas à payer votre dette. Il faut autre chose, il faut votre travail. Vous devez rendre à l'humanité et à Dieu sous forme de travail ce que vous avez reçu sous forme de nourriture et d'avantages personnels. Comment donc, dira encore quelqu'un, êtes-vous donc socialiste, dit-il à Turin. Vous rêvez donc vous aussi d'un état de choses dans lequel tous les citoyens seront enrégimentés de gré ou de force dans de grandes armées industrielles et agricoles et recevront des bons de nourriture et de chauffage ou de vêtements en échange d'une certaine somme de travail manuel. Eh bien non, bien sûr qu'il n'est pas socialiste, il n'en déplaise à d'autres, bien sûr qu'il ne pense pas à cela. Lui, parce qu'il va expliquer que, contrairement aux socialistes de l'époque, l'employé, l'ingénieur, le professeur, le savant, tout ceux-là sont également des travailleurs. Ce ne sont pas seulement les travailleurs manuels qui ont finalement cette dignité. Et quelquefois, une activité intellectuelle, scientifique, artistique, et à côté de cela, il y a également une activité morale, un travail du cœur qui doit être effectué. Et puis, bien sûr, il ne va pas oublier une partie de la population, puisque il répétera plusieurs fois, comme dans tout le sermon, celui qui ne veut pas travailler n'a pas le droit non plus de manger. Celui qui ne veut pas travailler, donc bien sûr, quand il répète cette phrase, il explique que ça exclut tous ceux qui ne peuvent pas travailler. Donc les trop jeunes, les trop vieux, les infirmes, les impotents, tout cela, mais il leur dit quand même qu'ils ont une tâche à effectuer. Il faut quand même que, après avoir servi activement et servi Dieu activement, tous ces malades, ces infirmes qui sont appelés à servir Dieu passivement, après l'avoir servi activement, et à le glorifier ainsi jusqu'à leur dernier soupir. Donc, on doit continuer à honorer et à travailler sur le sujet. Donc, être rentier n'est pas en soi un métier, ça n'est pas une activité. On peut profiter de l'indépendance matérielle, certes, mais si on met à contribution cette indépendance dans l'avancement de la science ou quelque œuvre philanthropique, sociale ou religieuse. Et donc, ma parole, dit-il, condamne absolument l'idéal le plus généralement répandu dans les masses qui dit, parce qu'il reprend l'exemple d'un enfant à l'école au catéchisme, qui dit, mais à qui on pose la question, mais pourquoi les anges sont-ils heureux? Et l'enfant, à ce moment-là, répond, mais parce qu'ils n'ont rien à faire. C'est une conception grossière du bonheur qui inspire une foule de vies pourtant très laborieuses. Donc il est absolument en colère sur le sujet. Et il veut absolument qu'on on oublie ça. Non, il faut qu'on travaille, il faut que on doit rejeter sans jeter l'ombre d'un blâme sur un repos devenu nécessaire. Ça, on ne doit pas le faire, bien sûr, mais on doit, quelque part, voir que même des grands-pères et des grands-mères ont des activités par leur chaleur, par leur vivacité, par leur esprit et par le suivi qu'ils ont vis-à-vis des classes plus jeunes qui font honte à des jeunes qui sont trop oisifs. Et puis bien sûr, il arrive, donc comme je disais, à une partie de la population qui n'est pas à laisser de côté en disant voilà. Je voudrais adresser quelques mots, tout spécialement à la partie féminine de cet auditoire, qui pourrait être tentée de croire que les considérations présentées jusqu'ici ne concernent que les hommes. La vocation de la femme, non, on est en 1893. La vocation de la femme est avant tout au foyer domestique. C'est là que, mère, épouse et fille, elle peut le mieux déployer toutes les aptitudes spéciales et faire fructifier tous ses dons à la gloire de Dieu. Il y a des femmes dont la vie est aussi active, ou plus active même, que celle de leur mari, père ou frère. Combien n'y a-t-il pas, en particulier dans la classe ouvrière, de ces vies obscures qui sont un tissu de dévouement là où, dans un ménage pauvre et chargé d'enfants, il y a de l'ordre et de la propreté et de la gaieté. Cela représente parfois un véritable héroïsme de la part de la mère de famille. Mais vous, mesdames, qui êtes plus favorisées par la fortune et dont les devoirs domestiques sont moins nombreux et bientôt accomplis, trouvez-vous dans votre maison un emploi suffisant de vos forces et de votre temps? Si cela n'est pas le cas, si vous êtes obligé d'avouer que vos journées sont à moitié ou presque vides, que le temps vous paraît long, qu'il y a en vous des trésors de force et de ressources et de dons enfouis sous la terre et qui ne seront à personne. Oh ! Que la parole de mon texte vous brûle la conscience comme un fer rouge. Celui qui ne veut pas travailler ne doit pas non plus manger. Vous, surtout, jeune fille chrétienne, ou qui prétendez l'être, n'acceptez pas facilement de prendre la pensée de manger un pain qui ne serait pas le vôtre, de laisser les autres travailler pour vous procurer une existence facile et agréable, sans faire de votre côté tout ce que vous pouvez pour vous rendre utile. Ne dites pas que vous ne savez pas que faire. Le champ de travail est infiniment grand. Si vous priez, si vous aimez, si vous savez ouvrir les yeux, vous ne tarderez pas à reconnaître les œuvres que Dieu vous a préparées afin que vous y marchiez. Le plan divin de votre vie est tout tracé là-haut auprès de Dieu. Et donc, ce qu'il faut, c'est le contempler. Ce qu'il faut, c'est travailler. Comme le disait un empereur chinois, je passe là-dessus, j'arrive à la fin. La dette. Et donc voilà, qu'est-ce que vous penseriez d'un homme qui, payé d'avance pour son travail, refuserait ensuite de le faire? Vous diriez qu'il manque à tous les engagements, qu'il a pris tacitement en acceptant le salaire, et vous indigneriez contre lui, vous le mépriseriez, et vous auriez raison. Eh bien, il y a dans le monde beaucoup de personnes qui agissent ainsi. La grande différence entre le riche et le pauvre, a dit quelqu'un, c'est que le pauvre n'obtient son salaire qu'après avoir travaillé, tandis que l'homme opulent reçoit son salaire finalement d'abord et se trouve ainsi engagé d'honneur à le gagner ensuite. Combien n'a-t-il pas parmi nous, mes frères, que s'ils veulent examiner loyalement tout ce qu'ils ont reçu de Dieu, doivent reconnaître qu'ils ont été payés d'avance? Ont-ils payé jusqu'ici? Paient-ils leur dette? Qu'ils se le demandent et agissent en conséquence. D'ailleurs, on peut ou pas dire que nous nous trouvons tous dans ce cas, en notre qualité de chrétien. Le chrétien est un homme qui a été payé d'avance. Dieu est venu à lui les mains pleines de tous ses dons. Avant de lui dire « fais », il lui a dit « reçois ». Accepte le salut que je t'ai préparé. Et le seul service qu'il agrée, le seul qui soit efficace, est celui qui est inspiré, non pour le désir d'obtenir quelque chose, de gagner le ciel et sa faveur, mais par une vive reconnaissance pour le don qu'il nous a fait en Jésus-Christ. Et donc il termine en disant, chers auditeurs, ouvrez vos cœurs à ce don, consentez à l'accepter sans prétendre à aucun mérite, puis mettez-vous à l'œuvre et travaillez jusqu'à votre dernier soupir, dans le sentiment que toutes vos forces, tout votre temps, tout votre cœur ne sont pas de trop pour reconnaître un si grand bienfait. Voilà. Merci beaucoup.